Aujourd'hui, dans le F-Club, je reçois Mélissa Cabot. Cette tourangelle de 42 ans a créé cette année sa micro-entreprise, les Bricoleuses Tours. Avec cette nouvelle aventure, elle entend bien déboulonner les a priori sur le bricolage et les femmes et minorités de genre. Armée de sa perceuse et de sa scie sauteuse, elle vient chez vous pour réaliser vos chantiers en toute sécurité, mais surtout pour faire avec vous, partager ses connaissances et vous permettre de monter en compétences. Au-delà de son entreprise et de sa mission de rendre le bricolage accessible à tous, Mélissa Cabot est sur de nombreux fronts féministes. Formée à l'accompagnement des femmes avec des outils de coaching et d'hypnose, elle s'allie depuis quelques mois à Justine Dubourg, présidente de Touraine Women, pour créer Les Ambitieuses, une structure qui accompagne les femmes et les minorités dans leur parcours d'entrepreneuse. Touche à tout et peut-être un peu hyperactive, cette maman de trois enfants a aussi fondé le Club Poussette de Tours à un moment où on parlait encore trop peu des réalités du post-partum. Dans la foulée, elle crée l'association Autour des Femmes qui propose des cercles de parole pour les femmes axés sur la santé physique et mentale. Avec elle, on parle d'entrepreneuriat au féminin, de travailler dans un monde d'hommes comme le bâtiment, mais aussi de s'éveiller au féminisme en tant que milléniale et de s'engager pour la cause des femmes dans tous les champs de sa vie. Et pour commencer, revenons au bricolage. Alors Mélissa, de ton côté, tu es tombée dans la marmite quand tu étais petite, grâce à ton père. Raconte-nous comment t'en es venue à cet intérêt pour le bricolage.
Et ouais, en effet, mon père travaillait sur les chantiers. Et je pense qu'assez vite, j'ai dû me dire que déjà, si je voulais passer un peu plus de temps avec lui, il allait falloir que j'apprenne à bricoler. En tout cas, dans la fratrie, je suis la seule qui ait porté un peu d'intérêt, la seule qui bricole d'ailleurs. Et assez vite, quand j'ai eu l'âge, hein, je suis allée avec lui.
Lui, c'était quoi sa formation ?
De métier, il est menuisier. Et très vite, son champ de compétences s'est agrandi. Et il est capable de refaire intégralement des maisons. Donc, j'ai beaucoup appris en le regardant. J'avais pas spécialement le droit de toucher.
T'avais quel âge quand t'as commencé à aller sur ces chantiers?
Ça, c'est vraiment jeune adulte, mais bricoler avec lui, il bricolait très peu à la maison, hein, pour être tout à fait honnête. Je pense que quand on est 12 heures sur un chantier, cordonnier les plus mal chaussés, genre à la maison, il ne bricolait pas du tout. Mais j'ai des souvenirs de si on allait en vacances et qu'il trouvait une branche, on le taillait avec un canif, on faisait un lance-pierre. Il y avait toujours ce côté manuel de construire, de faire soi-même. Ça a toujours été ancré en moi et je trouve ça normal, mais parce que je l'ai toujours vu, en fait.
Est-ce que à ce moment-là, tu te rendais compte que c'était justement pas si habituel de fabriquer des trucs, ou est-ce que tu avais un intérêt, tu t'aimais ça, aller avec lui et te retrouver à prendre ton canif pour couper des bouts de bois?
Non, je trouvais ça tout à fait normal, en fait. Je l'ai toujours vu faire. Honnêtement, je pense que c'est un attrait que tout le monde peut avoir. Je me rendais compte que c'était de la chance de passer du temps avec lui à ce moment-là, et qu'on se retrouvait, tu vois, par exemple, il passait du temps avec mes frères sur le foot, moi ça je déteste, donc c'était mon petit temps, c'était privilégié.
Et du coup tu disais, ouais, vous êtes une fratrie de quatre, il me semble, dont deux garçons, hein, et toi t'es la seule à avoir chopé ce truc du bricolage alors?
Ah ouais, je suis vraiment la seule. Mon frère, il n'y a pas longtemps, a voulu mettre une étagère et il a percé un trou et il pensait qu'il fallait juste mettre une vis. Donc, il a découvert l'existence des chevilles. Enfin, c'est pour te dire que vraiment...
Même moi, je sais qu'il faut des chevilles.
Il avait sa petite mallette Ikea avec deux tournevis. Je lui ai dit, ah ouais, non, là, c'est pas possible.
Non, vraiment, laisse-moi t'aider.
Ok. Il n'y a que moi qui portais un intérêt pour le bricolage.
Ouais. Dans une éducation un peu habituelle, genrée, notamment celle des années 80-90, comme on a grandi, puisqu'on a un peu le même âge, ce sont traditionnellement donc plutôt les garçons qui sont initiés aux travaux manuels. Dans ta fratrie, du coup, ça n'a pas été le cas. Est-ce que, justement, c'est parce que ça vient de toi, ou est-ce que c'est que ton père s'est dit, là, il a vu un intérêt de ta part et il s'est dit, je vais l'initier? Comment ça s'est fait?
J'aurais voulu lui demander, c'est une bonne question. Je pense que paradoxalement, il y a quand même des choses genrées. Hein. J'ai grandi dans les années 80. Mais c'est vrai que la mallette à outils, c'est moi qui l'ai eu comme cadeau de Noël.
Ça, tu l'avais demandé ?
Ouais, je l'avais demandé. J'étais trop contente d'avoir ma première mallette à outils. Non, y a, dans notre éducation, je pense qu'il y a eu des trucs qui étaient genrés. Mais par contre, mon père ne m'aurait jamais dit « une fille ne bricole pas » ou « bah non, tu vas pas venir avec moi parce que t'es une fille ». Ça, jamais. Jamais ressenti cette limite. Vraiment jamais.
Et du côté de ta mère, il n'y avait pas de, voilà, il y avait pas de d'accaparement des filles de son côté ou de, il y avait vraiment, elle vous laissait avec ton père faire votre truc
ouais,
aussi.
Ouais, ouais. Carrément. Ouais. Alors après, il y avait d'autres choses hein, où je trouve que mes frères ont beaucoup moins participé aux tâches ménagères et tout. Mais en tout cas, là, on a accès au bricolage et au niveau du bricolage, c'était pas genré, c'est juste que les gars, on n'avait rien à faire.
Oh bah, c'est une bonne raison de ne pas s'y mettre, en effet. Le foot, c'est très bien, déjà. Est-ce que tu dirais que tu as grandi dans un environnement féministe ?
Je suis en train de nuancer ça, parce que j'aurais dit non. Mais en fait, par l'exemple, oui. C'était pas un sujet. On n'en parlait pas, mais maintenant que j'y repense, ma grand-mère s'est battue pour le droit à l'avortement. Ma mère, elle a toujours bossé. Elle avait 4 enfants parce que c'était pour elle sa manière d'exister et d'être libre. Donc en fait, c'est quand même des exemples de femmes fortes. Mon autre grand-mère, la mère de mon père, elle a fui l'Espagne. Et elle est arrivée en France avec ses enfants sous le bras. Et, enfin, moi, je trouve que c'est des femmes hyper courageuses que j'ai eues comme modèle et féministes à leur manière, sans dire je suis féministe. Des exemples.
Est-ce qu'à cette époque-là, tu te projettes déjà dans un métier du bâtiment ? Parce que là, tu parlais tout à l'heure de ta première mallette de bricolage. Est-ce que ça, c'était vers quel âge ?
18-19 ans, je pense.
Ouais, d'accord. Donc, c'était quand même, t'étais déjà jeune adulte. Est-ce que, auparavant, quand tu grandissais et que tu voyais ton père, justement, partir sur les chantiers, tu te projetais dans...
Eh ben, non. Et je sais exactement pourquoi. C'est parce que je te disais que ma grand-mère, elle est arrivée en France, elle est espagnole. Et en fait, il y a... Donc, mon père est immigré et il y a... sans le dire toujours, c'est très pudique chez moi, dans ma famille, mais je sentais ce truc genre, mes enfants, vous ferez mieux que moi. Vous ne travaillerez pas dans le bâtiment. Et,
ouais, ah, il fallait aller au-delà d'un stagiaire ouvrier.
Moi, peut-être qu'il me dirait non. Et en vrai, on peut être artisan et très bien gagner sa vie. Et voilà. Mais il y avait ce truc genre, je vous offre une éducation que moi, je n'ai pas pu avoir. Faites des grandes études. Faites des études. Et en fait, je me suis retrouvée à faire des études et à ne pas me projeter dans le bâtiment et à faire des études. Et j'avais... Il n'y avait aucun sens derrière. Genre, j'étais là parce que c'était bien d'être là et il n'y avait rien qui me faisait vibrer. J'ai fait un DEUG AES, Administration économique et sociale, mais sans brio et sans aucune conviction en mode bon, ben, on m'a dit qu'il fallait faire des études, je pense que je vais faire ça. Voilà. Et c'est justement à la fin de ce DEUG que je me dis bon. Enfin, vraiment, tu ne seras pas dans un bureau, tu le sais. Qu'est-ce que tu as envie de faire et, là, donc, j'avais, je sais pas, 22, 23 ans. Et je me dis, c'est chelou de reprendre un CAP à cet âge-là. Donc, je me lance pas.
Et là, tu pensais au bâtiment ?
Ouais, je pensais au bâtiment, mais je suis un peu une touche à tout. Hein. Ton intro est super bien. C'est que j'aurais pu être boulangère, photographe. Enfin, et en fait, j'arrivais pas à choisir. Et j'avais l'impression que si je prenais une filière, j'abandonnais les autres. Donc j'ai un peu traîné, j'ai voyagé, j'ai un peu bullé, pris mon temps. Et puis je suis retournée sur des chantiers avec mon père et je me suis dit « Ah non, mais ça serait quand même cool de me former en fait ». Et là j'ai fait une formation, une pré-pro bâtiment, ça s'appelle professionnalisation bâtiment. Et j'ai essayé plusieurs choses et j'ai adoré peintre en bâtiment.
Et donc là, tu t'es spécialisée là-dedans à ce moment-là ?
Ouais, je me suis formée, donc c'était des formations adultes, donc jeune adulte, je sais pas, c'est après mes études et après avoir cherché mon chemin, donc je sais pas, je dirais 23 ans, quoi. Et une fois que je me retrouve, j'ai adoré me former, être avec des artisans, franchement, j'ai appris énormément de choses, c'était passionnant, mais une fois que j'arrive sur les chantiers, dans des boîtes, d'ailleurs, j'aurais... C'était des grosses boîtes, peut-être que c'était ça qui ne m'avait pas plu. Mais là, j'arrive, dans un monde où, en fait, je suis pas préparée, quoi. C'est hyper sexiste. J'allais dire misogyne. J'avais pas les épaules, en fait, pour être sur des chantiers à cet âge-là. J'avais vraiment pas assez de recul, pas assez de répartie. Et je me dis, c'est trop lourd, dingue pour moi. Jamais je passerai ma vie là-dedans. En plus du fait que ça soit hyper physique et que... peindre en bâtiment, ça peut être aussi retaper une façade et tout. Et moi, j'avais pas envie de faire ça. Donc, de nouveau, je m'y retrouve pas, quoi.
Toi, ce qui t'intéressait dans peindre en bâtiment, c'était plutôt l'intérieur, du coup, la déco, ou c'était quoi ?
Alors, au début, ouais, je me suis même demandé si c'était pas peintre en décor que je voulais faire. Et je suis allée voir et j'ai pas trop aimé les stucs, les enduits, tout ça. Mais j'avais envie de couleurs, de décoration. Et au final, en apprenant à faire les enduits et tout, j'ai vraiment adoré être peintre en bâtiment. C'est juste que dans cette ambiance-là, genre il y a 20 ans, c'était hyper difficile. Je sais pas comment c'est devenu.
Du coup, tu t'es retrouvée, parce qu'au départ, tu parlais de chantier avec ton père. Est-ce que, il me semble que vous êtes partis ensemble en Espagne, hein, c'est ça, sur un chantier. Et c'est ce chantier-là qui t'a permis de un peu découvrir tous les corps de métier qu'il y avait dans un chantier.
Ouais, ouais, exactement. À ce moment-là, je passe un an avec lui. J'avoue que le fait que ça soit en Andalousie m'a motivée à y aller. S'il m'avait dit qu'il faisait à Boulogne, je l'aurais peut-être pas fait. Mais je passe un an là-bas et il refait, je sais pas, une maison. C'était un appartement tout en haut d'un immeuble, mais c'était une centaine de mètres carrés. Et du coup, il fait tout de A à Z. Et là, je trouve ça passionnant parce que tu quantifies ce que tu as fait à la fin de la journée. Tu mesures ce que tu as construit. C'est très concret, c'est très utile. Moi, je trouve ça vraiment magique à ce moment-là. Et je me dis, c'est trop stylé. Il y a plein de gens qui me parlent de leur travail et ils ont des étoiles dans les yeux. Mais moi, je ne comprends pas, quoi, quand on me parle de chiffres ou... Je sais pas, il y a plein de métiers que je visualise pas. Et là, le fait qu'à la fin de la journée, il y ait un mur ou il y ait un meuble ou que la peinture soit faite, c'est visible tout de suite.
Oui, il y a un côté gratifiant tout de suite.
C'est
quoi.
Hyper gratifiant.
C'est après ce chantier-là que tu t'es formée ou c'était déjà avant ?
Non, j'étais déjà formée quand je suis partie sur ce chantier. Mais j'avais déjà eu l'expérience de me dire, waouh, je sais pas si c'est ça finalement. Je ne vais pas me retrouver tous les jours à faire des crépis avec les gros lourdeaux, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que du coup, tu étais quand même une jeune femme, moins de 25 ans, qui te retrouve sur des chantiers avec que des mecs autour de toi, j'imagine.
Mais ouais, que des mecs autour de moi. Et elle est belle, ta salopette. Ah, c'est pas trop lourd. Enfin, une fois, deux fois, mais toute la journée. Puis comme je te dis, j'étais vraiment pas armée, parce que tu me remets dans le même contexte maintenant à 40 balais, t'imagines bien que c'est pas la même et que je le recadre tout de suite. Et je passe à autre chose, tu vois. Ou alors, je monte une autre structure, une équipe de meufs. Enfin, je pourrais faire 10 fois différemment et ça serait mieux. Mais en tout cas, à l'époque, je n'avais pas les armes.
Là, il y a donc les réflexions sur le physique qui sont un grand classique. Et puis sur la force, quoi. Est-ce que tu te prenais aussi des remarques sexistes, de doutes sur tes compétences? Ou est-ce que ça, c'était pas trop...
Ah bah ouais, non mais évidemment. Enfin, mais même aujourd'hui, un homme va essayer de m'expliquer comment enduire, alors que je le fais depuis 20 ans. Ça m'est arrivé la semaine dernière encore. Déjà à l'époque, avant même que j'ai essayé, il me montrait comment faire. Il me demandait où j'avais été formée. Il fallait toujours que je dise mon CV, limite. Alors que ça, c'est pas un truc qu'on demande à un mec qui arrive sur un chantier.
Là, tu t'es formée à la menuiserie et à la peinture en bâtiment. Tu bosses dans ces grosses boîtes. Et puis après, ces expériences qui te plaisent pas finalement, malgré le plaisir à travailler avec ton père. Mais j'imagine que c'était aussi un chantier très... où vous étiez tous les deux peut-être, ou en tout cas protégé, entre guillemets, pas classique pour le bâtiment. Tu décides de prendre une tangente. Et là, tu te tournes vers la rénovation de meubles. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais à ce moment-là.
Mais oui, alors donc on arrive à la fin de ce chantier en Espagne. Non, je pars un peu avant lui. Je sens que c'est bon, j'ai fait le tour et que je suis pas sur la fin. Il avait plus trop besoin de mon aide. Et moi, je me dis de mon côté, ok, je vais pas rentrer refaire sur les gros chantiers. J'ai bien vu que ça ne m'allait pas. Mais pour autant, j'adore peindre, j'adore faire de mes mains, j'adore les meubles. Et voilà, tout ça, je me dis, bah, je vais chiner des meubles et les retaper et peindre sur des meubles. Ça enlève le côté hyper difficile d'un chantier et ça regroupe tout ce que j'aime. Donc je cherche, à ce moment-là, j'habite à Paris et je vois un petit atelier. C'est un atelier boutique de rénovation de meubles. Et elle me dit bingo, elle m'embauche. Et donc je rentre plutôt que prévu à Paris et je commence dans cet atelier de meubles rénovés.
Et ça, c'est un truc qui te plaît, hein, puisque tu faisais ça déjà plus jeune, même jeune ado ou jeune adulte en tout cas. Et puis c'est quelque chose que tu continues aujourd'hui, je crois.
Ouais, j'ai toujours fait ça. Chez moi, il n'y a pas un meuble du commerce. J'ai toujours... détourner, chiner, bricoler, j'adore, vraiment j'adore. Déjà, je n'aime pas mettre une fortune dans les meubles, mais en plus je trouve qu'il y a tellement plus de charme et de cachet et d'histoire que j'ai toujours fait ça. Et à ce moment-là, en tout cas dans l'atelier, en plus je rencontre une femme absolument brillante et je suis à la bonne place, je me sens hyper bien.
Alors à ce moment-là, on va revenir un petit peu plus tout à l'heure sur ta vie personnelle, mais en tout cas, pour boucler un peu la boucle de ton expérience plutôt professionnelle, avant de créer ton entreprise aujourd'hui, tu es jeune maman, tu décides de déménager de Paris à Tours et tu continues donc de chiner, retaper des meubles, mais surtout tu rencontres ton conjoint actuel et tu achètes et rénoves ta maison de A à Z. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure-là de la rénovation de A à Z? J'imagine que c'était un plaisir pour toi aussi de faire un chantier dans lequel tu allais habiter au final.
Ouais, c'est un vrai plaisir et c'est une évidence, un coup de cœur absolu. Quand je visite cette maison, je sais que c'est la mienne. Et c'est une maison ancienne, une maison de maître là à Tours. Moi, quand je rentre quelque part, je vois tout de suite, mon cerveau fait des plans, je me projette, je fais des modifs, je casse des murs.
T'imagines déjà le produit final.
Exactement. Sauf que cette maison, elle avait été retapée et que... pas à mon goût, en tout cas, je trouve que c'est un peu gâché le potentiel de les 2900. Ils avaient mis du carrelage sur les parquets, des moquettes, des chapes de béton sur les marbres des cheminées, enlever les moulures, du papier peint. Mais en fait, direct, je te dis, je me projette et je sais que c'est celle-là. Et j'étais pas spécialement partie pour 2 ans de travaux, mais je savais que si j'achetais quelque chose, il y aurait forcément des travaux. Je pense que jamais je serais capable, même si tout avait été refait, de me dire « Ok, il n'y a plus rien à faire ». Ça ne m'est jamais arrivé, tu vois. Même en location, je refais tout.
Tu fais partie de ces gens-là.
Ouais.
Et du coup, tu décides de t'y mettre toute seule, en fait. Hein. Enfin, t'as fait beaucoup, beaucoup toute seule.
Avec mon père. Mon père, il est venu m'aider, le pauvre, pendant ses vacances.
Tu l'as embauché.
Ouais, ouais, ouais. Il a fait la cuisine et tout. Et moi, en fait, quand je suis avec mon père, je suis plus petite main, tu vois. Je lui passe les outils, je fais les enduits.
T'es assistant, tu vois.
Ouais, un peu.
Tu redeviens.
J'apprends aussi parce que... C'est clair qu'il a un autre level, mais en tout cas, ça m'a refait du bien et je me suis dit, oh là là, mais comme ça m'avait manqué de faire des chantiers. Et quand j'ai acheté justement et que j'ai entendu qu'il y avait du parquet sous ces chapes-là, et que l'ancien propriétaire m'a dit, je lui ai dit, ah cool, il y a du parquet. Il fait, oui, mais bon, jamais vous récupérez le parquet, il y a une chape qui a été posée dessus et tout. Et en fait, pendant 6 mois, j'ai piqué la chape et j'ai enlevé chaque rainure, tu sais, des lames de parquet. J'ai tout poncé. Enfin bref, j'ai un parquet 1900 que j'ai retrouvé dans toutes les pièces. Et même si j'ai mis 12 heures par jour pendant 6 mois, en fait, je suis ultra déter pour dès que je sais ce que je veux, je fonce, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait avec la maison. Et là, ça fait 7 ans qu'on y est et c'est un vrai cocon. Ça a retrouvé son charme d'antan. Elle s'est réveillée, cette bâtisse, quoi. Et en même temps, elle a un côté familial et moderne. Tu vois, on n'a pas peur d'abîmer un truc. Alors, j'ai rien contre les gens qui... tu sais, qui ont des intérieurs chiadés un peu... tu sais, de
design.
Voilà, ouais. Mais moi, le meuble ou la table qui coûte 3000 et que t'as peur d'égratigner, c'est pas pour moi, tu vois. Moi, comme je te disais, ma table, je l'ai eu à 10 balles chez Emmaüs. Si les enfants sautent dessus, et ils ont fait ça hier, ils l'ont fissuré, j'avais fait un plateau en béton. Mais en fait, c'est pas grave, je refais. C'est ça qui... Je veux que ça vive, en fait.
On a sauté un peu des étapes parce que, en fait, tu le disais, là, tu retrouves, au moment de ce chantier avec la maison, tu retrouves la vie de chantier. Est-ce que sur ce chantier-là, tu apprends des nouvelles choses? Est-ce que tu as l'impression d'encore remonter en compétences?
J'ai appris tous les jours. Je me vois avec mon marteau piqueur en train de dégommer des murs. Ça, c'est pas dans ma formation de peintre en bâtiment. Rattraper le parquet dont je te parlais non plus. Qu'est-ce que j'ai fait comme j'ai tout fait. En fait, je n'ai pas peur d'essayer. Je trouve ça cool avec le bricolage, c'est que bah, si ça ne va pas, tu redéfais et tu refais. On ne sauve pas des vies, on n'opère pas à cœur ouvert, tu vois, vraiment. Et je comprends que ça puisse faire peur à certains ou certaines de faire des trous dans les murs, tout ça, mais en vrai... Tu rebouches après, ça craint pas grand chose. Donc, moi, vraiment, j'ai essayé 10 000 trucs dans ma maison, même si je savais très bien où j'allais, parce que vraiment, comme je te dis, je visualisais ce que je voulais. Mais ouais, je me suis éclatée, vraiment, je me suis régalée, et je suis allée même jusqu'au bout de ma grossesse enceinte, là, à continuer, parce que j'avais pas fini et je voulais accueillir mes enfants dans une maison finie, à fermer plafond, à 2 mètres de hauteur. Mon mec, il était fou, j'avais un pied sur la baignoire, un pied sur l'échelle. C'est un peu too much.
Et ton ventre de femme enceinte au milieu.
Ouais.
Est-ce que sur ce chantier-là, tu embauches des artisans? Est-ce que les expériences sont bonnes? Et peut-être comment te sens-tu en tant que femme, justement enceinte, sur ce chantier-là? Est-ce que tu te sens puissante, vulnérable? Ça dépend des moments, ça dépend avec qui?
Alors, pendant les 2 ans... En fait, comme je suis pas stressée et que ça avance et que je le fais pour moi, je suis hyper bien, j'adore. Et il y a plusieurs moments où je dois faire appel à des artisans, genre pour péter des murs porteurs et tout. Évidemment, je me vois pas le faire seule, donc j'ai reçu plusieurs artisans à la maison. Et... J'étais avec mon mec et les artisans, à chaque fois, c'est moi qui leur demandais ce que je voulais, qui leur disais précisément ce qu'on attendait d'eux. Et ils se tournaient de trois quarts pour répondre à mon mec. Mon mec ne s'est pas planté un clou, mais vraiment. Tu as beaucoup de qualités, mon amour, mais pas celle-là si tu m'écoutes. il le sait, donc il dit « Non, mais c'est Mélissa qui bricole dans notre couple. » Et à aucun moment, et je pense que j'ai vu une dizaine d'artisans, à aucun moment, ils ne m'ont parlé à moi. À aucun moment, ils n'ont répondu à mes attentes ou à mes questions. Ils ne m'ont jamais prise au sérieux, mais vraiment. Et il a à chaque fois insisté, mon compagnon, en disant « Non, mais vraiment, voyez avec elle, je n'y connais rien. » Et non, jamais les artisans n'ont échangé avec moi. J'ai trouvé ça lunaire, franchement. Ça m'a réellement énervée. Et c'est là qu'a commencé à germer l'idée en mode « faut faire un truc pour que les femmes puissent avoir une interlocutrice, ça se dit ?»
Ça se dit.
Mais pour qu'elles soient entendues et qu'on puisse parler et être respectées. Parce que là, en fait, c'est...